VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Eric Manila Kidza, en direct de Washington. Le monde aujourd'hui, troisième édition de la soirée. Nous sommes mercredi 21 mars 2018. D'abord, les principaux titres. Au Nigeria, les écolières enlevées de Dapchi il y a un mois ont retrouvé leurs parents. Reprise à Ouagadougou du procès du putsch manqué de septembre 2015. L'Union africaine institue la zone de libre-échange continentale. 44 pays ont signé l'accord à Kigali, la capitale du Rwanda.
La principale difficulté, je crois, c'est au niveau de la qualité des infrastructures. On va transporter les produits.
Leonard Wanchekan, professeur d'économie politique à l'université de Princeton. Aux États-Unis, le présumé auteur de la série d'attentats au colis piégé dans le Texas s'est donné la mort. Et ne manquez pas notre page des sports et l'actualité économique. Mais d'abord, le journal. Dans le nord du Nigeria, une centaine d'écolières de Dapchi enlevées le 19 février ont été remises à leurs parents. Elles avaient été kidnappées par des militants présumés de Boko Haram et une centaine de jeunes filles ont été ramenées à Dapchi. Leur enlèvement avait provoqué une vague d'indignation dans le pays, rappelant l'enlèvement de Chibok en avril 2014. Les précisions de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Sur la centaine de filles enlevées le 19 février dernier à Dapchi, cinq auraient trouvé la mort pendant les multiples transits et ont été enterrées dans une fosse commune dans leur camp, selon les témoignages des rescapés. Une autre fille, chrétienne, est toujours avec les ravisseurs dans leur camp pour avoir refusé de se convertir à l'islam. Les combattants de Boko Haram affirment n'avoir reçu aucune rançon du gouvernement et qu'ils ont seulement décidé eux-mêmes de ramener les filles. Le gouvernement nigérien de son côté indique que les efforts du président Muhammadu Buhari et des instructions qu'il a données aux agences de sécurité pour amener les filles ont porté leurs fruits. Mais cette libération surprise suscite beaucoup de questions dans le pays et nombreux sont des Nigériens qui veulent savoir dans quelles conditions ces filles ont été libérées. Cette libération intervient aux 24 heures après un rapport d'Amnesty International qui accuse l'armée nigériane de ne pas avoir tenu compte de plusieurs avertissements concernant l'attaque imminente de Dapchi. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Burkina, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a repris ce matin après plusieurs semaines d'interruption. Pagasikoura.
Cette deuxième journée a été marquée par la désignation des juges assesseurs, trois au total, dont un général, deux colonels et leurs trois juges assesseurs militaires suppléants. Cette deuxième journée a aussi été marquée par une offensive de la défense qui estime que la composition du tribunal est irrégulière. Ils mettent en cause le décret de nomination du président du tribunal ainsi que des différents juges. Ces juges ont été nommés pour siéger au niveau de la chambre du tribunal militaire, alors qu'ici il s'agit de la chambre de première instance, pointe la défense, mettant en cause la régularité du parquet militaire. Au total, 84 accusés sont jugés. 18 civils et 66 militaires, les cerveaux présumés de la tentative de coup d'État sont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. La tentative de putsch de mi-septembre 2015 contre le gouvernement de transition avait fait 14 morts et plus de 250 blessés.
Et dans le sud du Tchad, le parti cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République affirme que trois de ses membres sont gardés au secret et accuse l'Agence nationale de sécurité. Le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahama Bachir, a démenti cette information. Joseph Dajnaji, président de parti d'opposition, dit qu'on leur reproche d'être les auteurs d'un tract appelant la population de Doba à la révolte. Des femmes de l'opposition guinéenne n'ont pas pu manifester hier pour exiger justice pour les victimes des violences politiques. L'opposition conteste les résultats des élections locales du 4 février, officiellement remporté par le parti du président Alpha Condé. Elle a organisé depuis des manifestations qui se sont soldées par une douzaine de morts. Au moins deux personnes ont été tuées de casquets bleus légèrement blessés lundi soir en Centrafrique. C'était dans des échanges de tirs entre deux groupes armés à Aliendao, ville d'environ 115 000 habitants située à 500 km à l'est de Bangui. Les morts sont deux combattants de l'unité pour la Centrafrique, UPC, un groupe armé puissant dans la région et issu de l'ex-Séléka musulmane. Deux casquets bleus, un Burundais et un Gabonais ont été blessés. L'armée congolaise a tué 4 assaillants responsables des massacres des civils à Nitouri dans le nord-est du pays. La localité est en proie à des conflits meurtriers récurrents à caractère communautaire. La zone de libre-échange continentale a vu le jour aujourd'hui à Kigali, au Rwanda, à l'issue d'un sommet extraordinaire. 44 pays africains ont signé l'accord qui crée ce vaste marché intra-africain. L'Union africaine le perçoit comme essentiel au développement du continent. John Lyndon.
L'accord établissant la zone de libre-échange continentale a été signé par 44 pays, a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à l'issue d'un sommet dans la capitale rwandaise. Le Nigeria, l'une des premières économies du continent, s'est abstenu. Le président nigérien Muhammadu Buhari veut donner plus de temps aux consultations dans son pays où l'accord suscite une certaine opposition. L'Union africaine estime que l'élimination progressive des droits de douane entre les pays membres permettra d'augmenter de 60% d'ici à 2022 le niveau de commerce intra-africain. Actuellement, les échanges entre pays africains sont à 16%. Pour entrer en vigueur, l'accord signé par les chefs d'État doit être ratifié par chaque pays signataire. Un autre sommet est prévu à Mauritanie en juillet prochain.
Le président camerounais Paul Biya a entamé une visite d'État de 3 jours en Chine. Il est accompagné d'une importante délégation de ministres et d'hommes d'affaires. Pékin est le premier investisseur étranger et premier partenaire commercial du Cameroun. Entre 2000 et 2014, 67% des investissements directs étrangers au Cameroun étaient chinois. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé les électeurs à participer massivement au scrutin présidentiel la semaine prochaine. M. Sissi brigue un deuxième mandat de 4 ans dans le scrutin des 26, 27 et 28 mars. Il sera opposé à Moussa Mostafa, un unique candidat qui est aussi l'un de ses plus fervents soutiens. Plusieurs autres candidats ont été écartés de la course ou interpellés. M. Sissi est accusé par ses adversaires de réprimer l'opposition. Un imam marocain soupçonné de radicalisation qui prêchait dans le nord de l'Espagne a été expulsé vers le Maroc. Il a été arrêté le 5 février, puis placé dans un centre de rétention pour étrangers à Madrid avant d'être remis le 9 mars aux autorités marocaines avec une interdiction de séjour en Espagne de 10 ans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le nord-est des États-Unis s'est retrouvé ce matin sous la neige pour le deuxième jour du printemps. Cet épisode climatique a entraîné la fermeture de nombreuses écoles et des services gouvernementaux. Dans la région de Washington, les météorologistes prévoyaient entre 7 et 20 cm maximum de neige pour cette quatrième tempête du nord-est en 3 semaines, baptisée Toby. À Austin, ici aux États-Unis, un jeune homme soupçonné d'être l'auteur de la série d'attentats au colis piégé s'est donné la mort aujourd'hui. Il s'est fait exploser dans sa voiture. Claire Morin-Gibourg.
L'annonce a été faite par Brian Manley, le chef de la police d'Austin, au cours d'un point de presse ce matin.
The suspect is deceased.
Le suspect est mort et a été grièvement blessé par l'explosion d'une bombe dans sa voiture, a dit le chef de la police. Cet homme blanc serait l'auteur des bombes artisanales qui ont fait 2 morts et plusieurs blessés. Les motivations du suspect restent inconnues. Cependant, le chef de la police n'a pas écarté une piste raciste car les premières victimes sont noires et hispaniques. Depuis 3 semaines, des centaines d'agents de la police locale et fédérale étaient sur la trace du poseur de bombes en série. Mais les forces de l'ordre craignent que d'autres colis piégés soient encore en transit. La population a été appelée à une extrême vigilance et a signalé tout objet suspect.
Claire Morin-Gibourg. Des pourparlers sont en cours pour l'évacuation de rebelles islamistes et de civils d'une localité dans la Ghouta orientale, près de Damas. La localité est la cible d'une offensive du régime syrien. Israël a reconnu pour la première fois avoir lancé un raid aérien en 2007 contre un réacteur nucléaire en Syrie. Cette révélation constitue, selon un ministre, un avertissement adressé à l'Iran. Le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, a refusé hier d'adresser ses félicitations au président russe Vladimir Poutine pour sa réélection. C'est à la suite de l'empoisonnement d'un ancien agent russe en Grande-Bretagne. La veille, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait lui envoyé une lettre de félicitations aux dirigeants russes. Facebook est confronté à une campagne de désabonnement. Plusieurs sites Internet proposent des astuces pour se désabonner, avertissant toutefois que le processus de désabonnement est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Facebook est mis en cause dans l'utilisation de données de millions d'utilisateurs à leur insu. Le réseau social aux 2 milliards d'usagers fait face à une campagne de désabonnement et à une chute en bourse. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, elle est signée Bagasikoura.
44 pays africains ont signé à Kigali l'accord créant la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. Elle est perçue comme essentielle au développement économique de l'Afrique selon l'Union africaine. Le Nigeria est le principal pays à s'être abstenu. L'UA estime que l'élimination progressive des droits de douane entre membres de la ZLEC permettra d'augmenter de 60% d'ici à 2022 le niveau de commerce intra-africain. Actuellement, seulement 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent. Dans une note officielle datée du 20 mars, le ministère de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire a décidé de s'attaquer à certaines sociétés de marketing de réseau. Cette annonce intervient quelques 4 mois après la fermeture de 28 entreprises agro-business dénombrant 36 699 souscripteurs ayant investi 66 milliards de francs CFA pour une promesse totale de 660 milliards de francs CFA, alors que les soldes disponibles sur les comptes bancaires de ces entreprises s'élevaient à quelque 22 milliards de francs CFA. Le Nigeria envisage de mobiliser 15 milliards de dollars pour achever le projet de la mise en place d'une ligne ferroviaire entre Port Harcourt et Maïdougouré, a indiqué ce mardi le ministre des Transports Rotimi Amaechi. Selon les informations relayées par l'agence Ecofin, ces fonds devraient être débloqués dans le cadre d'un prêt qui devrait bientôt être négocié en Inde.
C'est la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric.
Le tirage au sort pour les phases du groupe de la Ligue des Champions se tient présentement au Caire.
Tout à fait Eric. Et l'Égyptien Azem Emam, le Sud-Africain Mark Fish et l'Angolais Gilberto, trois légendes donc du football africain, assurent ce tirage. En attendant de connaître la composition des poules, déjà il faut savoir qu'hier, la CAF a dévoilé les différents chapeaux. Dans le premier chapeau, on retrouve les Congolais du TP Mazembe à la Ligue d'Égypte, les Tunisiens de l'Étoile du Sahel et le champion en titre, le WAC Casablanca. Mamelodi Sundowns Zest, l'Espérance de Tunis et le Sétif d'Alger sont dans le deuxième pot. Le chapeau 3 comprend le MC Alger, Kassissié de l'Ouganda, Oroya de la Guinée et Mbambane du Swaziland. Enfin, dans le chapeau 4, on a les Angolais de Primero 2 Agosto, Township Rollers du Botswana, les Marocains de Difa El Jadidi et le surprenant club togolais, l'AS Togoport.
Et début aujourd'hui de la série de matchs amicaux des équipes africaines lors des journées FIFA.
Trois rencontres au programme Eric. Madagascar défie le Togo au stade de Saint-Leu-la-Forêt, c'est en France donc. Les éperviers sont au grand complet avec, entre autres, Emmanuel Adebayor, Mathieu Dosevi et Floyd Haïté. Les deux autres rencontres se jouent sur le continent et concernent le tournoi 4 organisé par la Zambie qui accueille l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Il faut savoir que d'entrée, les Bafana sont venus à bout de l'Angola au tir au but avec 7 tirs réussis contre 6. Samedi, l'Afrique du Sud affrontera en finale le vainqueur de Zambie-Zimbabwe qui se dispute présentement.
En Espagne, Xabi Alonso est poursuivi pour fraude fiscale.
Le parquet espagnol a requis 5 ans de prison contre l'ancien milieu du Real Madrid pour une fraude fiscale présumée de 2 millions d'euros entre 2010 et 2012. Le ministère public estime que l'ancien international espagnol de 36 ans a utilisé une société basée sur l'île portugaise de Madère pour éviter de déclarer au fisc espagnol des revenus issus de l'exploitation de ses droits à l'image. Le parquet requiert 5 ans d'emprisonnement. Le parquet requiert donc 5 ans d'emprisonnement et 4 millions d'euros d'amende contre Xavi Alonso, son conseiller fiscal Ivan Zaldua et le gérant de la société portugaise Ignacy Maestre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manirakiza, nous passons maintenant à vos dossiers du jour. Au Mali, un conflit intercommunautaire sévit au centre du pays où plusieurs personnes ont perdu la vie dans les cercles d'Okoro, Douentsa et Géné. Le gouvernement tente un dialogue pour rétablir le calme entre les communautés Peul et Dogon qui cohabitaient dans la paix depuis des siècles. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Douentsa, Tenenkou, Yuwaru et récemment Koro sont des localités dans la région de Mopti. Gabriel Tchenou, enseignant.
Cette guerre intercommunautaire entre Peul et Dogon. On se rappelle à un moment donné que c'était entre les Peul, d'autres diront que c'est des djihadistes qui étaient en conflit ouvert avec les Dosso, les Sasser, avec l'invasion des régions nord du Mali. Et il y avait quand même l'implantation de cette idéologie djihadiste qui prône la violence et les désordres.
Sur le terrain, les communautés s'attellent à la sensibilisation. Ibrahim Diko, président de l'Union nationale des jeunes.
Tout Peul n'est pas djihadiste, tout Dogon n'est pas Rouzo. Seulement des milices qui sont là sur le terrain, qui possèdent des armes de guerre, sont prêts à s'enrichir du jour au lendemain. Ils sont là, ils tuent les Peuls, prennent les troupeaux et maintenant aller tuer quelques Dogon, c'est les Peuls qui ont tué. Donc chacun se soulève, on s'entretient et profite de cette guerre-là. Donc ça n'arrange personne. Donc soyons très vigilants, soyons très solidaires, très soudés et non à l'amalgame.
Dans la zone de Koro, la tension est toujours vive. Avec les Donso, c'est-à-dire les chasseurs traditionnels, ceux-ci parlent de défendre leur village.
Vraiment, cette guerre intercommunautaire n'est pas la bienvenue, vu l'association de notre pays. Ce sont des voisins qui cohabitent ensemble. Cette guerre, vraiment, n'a pas sa raison d'être. Je pense que le gouvernement doit réunir toutes ses forces afin de pouvoir parler entre eux et trouver une solution rapide.
Réunis à Bamako, cercle, les ressortissants de Tenenkou trouvent que leur cas est singulier. Timouré Tchoulenta, porte-parole des ressortissants de Tenenkou.
Ces populations seront soumises à des exactions et des percussions continues, à la rigueur de nouvelles réglementations dans le domaine religieux et en matière de comportement social. Tout cela couronné par des enlèvements aussi emblématiques ou spectaculaires, des massacres retentissants et des meurtres anciens. Vous comprenez que 27 enlèvements dans la même logique, voire plus que temps de mettre fin aux souffrances des populations.
En plus de la sensibilisation des communautés, l'État veut déployer des militaires sur le terrain. Sidi Alassane Touré, gouverneur de la région de Mopti.
La défense du territoire, des personnes de leur bien, revient à l'armée nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans un État très responsable et cet État ne veut pas de milices où des gens s'organisent et disent qu'ils vont défendre leur communauté. Ça va nous amener très loin. Seule l'armée doit justement détenir l'arme. Ce n'est pas les communautés qui doivent s'organiser pour dire qu'elles vont assurer leur propre défense.
La situation reste tendue sur le terrain. Une visite du Premier ministre est attendue à Koro ce week-end. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Congo-Brazzaville, Amnesty International dénonce des cas de torture et de détention arbitraire d'une centaine de militants. C'est dans un communiqué publié conjointement avec quatre autres organisations de défense des droits humains. Pour analyse, Eki Abadou a joint à Dakar le chercheur pour l'Afrique centrale pour Amnesty International, Balkissa Idesido.
Nous avons à plusieurs moments déjà durant les années précédentes, les mois précédents, communiqué avec les autorités, fait des communiqués en leur demandant de libérer les personnes qui ont été arrêtées tout simplement parce qu'ils ont manifesté contre le référendum constitutionnel ou ils ont en fait refusé d'accepter les résultats des élections présidentielles de 2016. Nous avons demandé aux autorités de les libérer parce qu'ils n'ont fait qu'exercer leur droit à la liberté d'expression et de manifestation pacifique. Mais malheureusement, toutes nos demandes sont restées des lettres mortes.
Là, vous parlez de liberté d'expression, elles ont manifesté, mais elles sont accusées de quoi finalement ces personnes sur le papier ?
La grande majorité de ces personnes ont été inculpées pour incitation au trouble à l'ordre public et atteinte à la sûreté intérieure. Ce sont les deux charges qui reviennent de manière récurrente pour les différentes personnes qui ont été arrêtées et dont nous avons documenté les cas, c'est-à-dire plus de 60 activistes politiques. Ces accusations ne sont pas soutenues par des preuves qui sont reconnues ou qui sont acceptables. Donc nous demandons aux autorités de les libérer et les cas pour lesquels ils ont des preuves qui vraiment sont avérés, qui sont raisonnables et qui sont acceptables, c'est-à-dire pas obtenues sous la torture, qu'ils jugent ces personnes rapidement, parce qu'il y en a qui vont bientôt faire plus de 3 ans en prison.
Quels sont les autres recours et comment pouvoir rester optimiste pour une suite favorable les concernant ?
La communauté internationale doit se mobiliser. Elle doit arrêter de rester silencieuse par rapport à la situation des droits humains au Congo qui est inquiétante au jour le jour. Donc elle doit se mobiliser et elle doit exiger, demander aux autorités congolaises de libérer ces personnes qui ont été arrêtées pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression et manifestation pacifique. La communauté internationale, notamment l'Union européenne et les Nations unies, ne peuvent plus se taire. Parce que là, le Congo est en train de violer les droits humains et est en train également de montrer qu'elle n'a aucun respect pour tous ses engagements qu'elle a eu à prendre sur le plan international en matière de droits humains.
C'est donc le dernier recours possible par la communauté internationale?
Les pays partenaires du Congo, l'Union européenne, ils ont ce qu'on appelle le cadre de dialogue politique. Et dans ce cadre-là, ils peuvent soulever la situation des droits humains au Congo.
Balkissa Idesido, chercheur pour l'Afrique centrale pour Amnesty International.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
En RCA, la décision de la délocalisation du siège de la CEMAC à Malabo en Guinée équatoriale provoque des rebonds. Classe politique et société civile sont toutes unanimes contre cette décision. Un reportage de Freeman Sipila, correspondant de VOA Afrique à Bangui.
Le 19 février dernier, le président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby Itno, a pris la décision de délocaliser provisoirement le siège de la CEMAC de Bangui à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette décision n'a été révélée que mi-mars au Centrafricain. L'annonce a fait un véritable tollé dans le pays, et particulièrement à Bangui, la capitale. Dans les rues, c'est la consternation des habitants.
Le chef d'État doit convoquer une réunion avec toutes les forces vives de la nation pour que les gens réfléchissent. Est-ce qu'il n'y a pas un complot en vue ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se préparent?
Même s'il y a de quoi, on doit avoir la solution à tout ce problème. Ce n'est pas nécessaire de le déporter pour mettre quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas bien tenir à l'avenir.
Ce qui me sidère dans tout ça, c'est le fait que nos leaders politiques n'aient pas réagi de façon vigoureuse.
Selon la présidence de la CEMAC, le retour du siège à Bangui exigeait la réhabilitation préalable des infrastructures et équipements abandonnés à la suite de la crise dans le pays. Selon des sources proches du siège de la commission à Bangui, l'État centrafricain aurait débouché près de 200 millions de francs CFA pour la taxe communautaire d'intégration, permettant ainsi au président et vice-président d'avoir leur logement de fonction. 50 cadres de la communauté sont même actuellement logés dans différents hôtels de la place aux frais du Trésor public centrafricain. Pour Jean-Serge Wafiou, porte-parole du Conseil des leaders politiques et sociaux CLPS, ancien commissaire de la CEMAC,
c'est un coup politique très bas que le président Déby nous a fait. C'est plus qu'un mépris. Le président Touadéra doit parler, il doit dire quelque chose. S'il ne dit rien, le CLPS va lui donner un carton orange. C'est sérieux là.
Paul Cresson Beninga, coordonnateur du groupe de travail de la société civile.
Nous sommes dans une politique d'intégration. Les traités de la CEMAC sont clairs. Lorsqu'on veut envisager une décision de cette nature, il faut consulter tous les chefs de l'État. Ce que nous remarquons, c'est que les chefs d'État ne sont pas consultés. Obiang Nguema a saisi Déby. Déby, de façon unilatérale, a pris une décision qui n'arrange pas les affaires des Centrafricains.
Il faut saisir la cour de la CEMAC. Les procédures sont là.
Le gouvernement mis dos au mur et son porte-parole assure que la République centrafricaine ne se laisserait pas faire. Maxime Kazagui, ministre de la Communication.
Le chef de l'État suit lui-même ces questions. Des contacts se sont déjà pris, d'abord pour comprendre les ressorts de cette situation et bien entendu de donner, si ce n'est de forcer, le point de vue de notre pays, la République centrafricaine. Pour nous, cette question n'était plus une question à discuter.
Aujourd'hui, la CEMAC contribue à hauteur de plus de 800 millions de francs CFA par mois dans l'économie centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Washington Forum braque les projecteurs sur le sommet de l'Union africaine. Les dirigeants africains se réunissent ce mercredi à Kigali, au Rwanda, pour signer l'accord cadre de la zone de libre-échange continentale, un projet ambitieux qui semble ne pas faire l'unanimité. Quel est l'enjeu de cet accord? Sera-t-il endossé par un grand nombre d'États africains? Comment tirer parti de la force des opérateurs économiques du continent pour favoriser l'intégration panafricaine? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique.
Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Girondin.
Le Monde aujourd'hui, VO Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition de la soirée. Mais n'oublie pas que la vie vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. Merci de l'avoir suivi. Merci à Sims Lumami pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Manilakiza à Washington vous souhaite une agréable soirée.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Alors que l'écrasante majorité de près de 100 000 hommes et femmes des forces onusiennes de maintien de la paix agissent avec honneur et intégrité, des actes de mauvaise conduite surviennent, y compris de cas d'exploitation sexuelle et d'abus contre les populations que les casques bleus sont censés protéger. Les pays d'origine des casques bleus ont l'ultime responsabilité d'enquêter, de documenter et de punir des cas de mauvaise conduite. Mais les chefs des unités déployées n'ont souvent pas les connaissances ou la capacité nécessaire pour enquêter au sujet des violations de la loi criminelle militaire. Ce n'est qu'à l'issue d'une enquête crédible que des actions disciplinaires appropriées peuvent être décidées contre les auteurs de ces abus. C'est pourquoi les États-Unis et les Nations Unies ont conjointement offert le tout premier cours de formation à l'intention des officiers de police judiciaire. Ce cours est un modèle de coopération interagence et internationale. Il a été parrainé par l'Initiative mondiale des opérations de paix, gérée par le Bureau des affaires politico-militaires du Département d'État américain, élaboré conjointement et mise en œuvre par le Département de la Défense des États-Unis et le Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies. 26 officiers originaires de 11 pays partenaires ont pris part à cette formation dans le but d'améliorer l'efficacité des enquêtes sur la conduite et la discipline au sein des opérations onusiennes de maintien de la paix. L'objectif est d'améliorer l'habilité des officiers à enquêter sur les allégations d'exploitation sexuelle et les abus en approfondissant leur compréhension des normes onusiennes de conduite et de discipline. Il s'agit aussi de former dans les techniques de base d'enquête et de collecte de preuves. Le cours sera dispensé à 3 reprises cette année en Afrique, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. De telles formations démontrent l'engagement des États-Unis à appuyer la politique de tolérance zéro des Nations Unies. Le cours sera dispensé à 3 reprises cette année en Afrique, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. De telles formations démontrent l'engagement des États-Unis à appuyer la politique de tolérance zéro des Nations Unies contre l'exploitation sexuelle et les abus.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.